ça va, vous êtes encore d'attaque pour à nouveau une petite conférence juridique. Alors, là ce matin, on a vu comment est-ce que la loi avait eu pour objectif en fait d'augmenter, de faciliter l'accès à la contraception. Là, ce qu'on va voir ensemble, c'est les règles plutôt liées à l'interruption volontaire de grossesse. Et on va regarder comment en fait on est passé de l'interruption volontaire de grossesse, considérée vraiment comme un droit exceptionnel, à l'IVG, considéré comme un droit à part entière. Et on va voir que toutes les règles, en fait, abondent, vont dans ce sens. Alors, l'IVG, à l'origine, c'était un droit exceptionnel. Alors, ce matin, on a vu que l'objectif de la loi Neuwirth, au départ, c'était de favoriser l'accès à la contraception, pour pouvoir permettre de limiter les avortements clandestins. Sauf qu'on constate que la loi n'a pas eu l'effet escompté et on dénombre encore de très nombreuses femmes qui partent à l'étranger ou qui procèdent à des avortements clandestins. Du coup, on décide en 1975 de, comme on ne peut pas contrôler cette pratique, enfin on n'arrive pas à la supprimer, bah on va l'encadrer pour éviter un certain nombre de dérives. Et donc, on a la loi Veil du 17 janvier 1975 qui est venue légaliser l'avortement pour les femmes enceintes qui se retrouvent dans un état de détresse et jusqu'à la 10e semaine de grossesse. Alors, il est intéressant de noter qu'à cette époque, en fait, le législateur n'est pas du tout favorable à l'IVG. Et c'est très clair, ça, quand on s'amuse à aller sur le site de l'Assemblée nationale, par exemple, pour lire les travaux préparatoires de la loi, le législateur, il dit par exemple que cette loi, elle vise à remédier à une situation intolérable pour l'État social, mais que cela ne crée en aucun cas un droit à l'avortement, qui ne peut être considéré que comme l'ultime et exceptionnel recours. Donc, on légalise la pratique, mais voilà. Et on met aussi en place dans cette loi de nombreuses mesures dans le but d'inciter les femmes à renoncer à leur projet. Et ça, dans le discours de Simone Veil, qu'on peut lire aussi, c'est assez clair par rapport à ça. Donc, par exemple, on met en place une consultation préalable avec un médecin. Simone Veil, à ce sujet, elle dit que le refus de l'enfant à naître est souvent passager. Le colloque direct avec le médecin suffit parfois à faire prendre conscience à la femme de son désir profond de donner le jour à son enfant. En outre, bien souvent, la femme enceinte ignore les possibilités que lui assure la législation, qu'il s'agisse de sauvegarder le secret de son accouchement, ou qu'il s'agisse des aides que la mère peut recevoir après la naissance de son enfant, ou encore de la solution que peut apporter dans certains cas l'adoption. Donc, pour Simone Veil, en fait, le fait d'introduire une consultation avec un médecin, ça peut permettre parfois de faire renoncer les femmes à leur projet. Pareil, pour être sûr d'éviter que certaines femmes aillent jusqu'au bout, il y a un délai de réflexion de 7 jours. Et elle considère que parfois, les femmes vont renoncer à ce projet. Dans la loi, on trouve aussi beaucoup de mentions de mesures prises pour éviter le recours à l'IVG. Donc on va notamment souvent mentionner toutes les règles mises en place pour favoriser la contraception, par exemple. Donc en fait, en 1975, on est vraiment dans une position sur laquelle l'IVG, c'est un acte qui est toléré, qui est maintenant légal, mais c'est vraiment considéré comme quelque chose d'exceptionnel. Progressivement, on va voir qu'on a affaire à un glissement, en fait, des règles juridiques pour aboutir à une conception de l'IVG comme un droit à part entière pour les femmes et non plus comme un droit considéré comme exceptionnel. Dans les années 2000, en fait, on constate, on fait un peu le bilan de cette loi, et on constate qu'on a affaire à plusieurs échecs. Le nombre d'IVG est à peu près stable, par contre il est en très forte augmentation chez les mineurs. Et on constate aussi qu'il y a toujours à peu près plus de 5000 femmes qui partent chaque année à l'étranger pour pratiquer des IVG parce qu'elles ont dépassé le délai légal. Et du coup, on considère qu'il est nécessaire de venir assouplir la loi Veil. Donc, on va adopter une loi le 4 juillet 2001 pour l'assouplir. On va augmenter le délai de 10 à 12 semaines. À cette époque, on pense que c'est pas un risque accru pour les femmes, que ça permet aussi de régler à peu près 80% des cas de départ à l'étranger, et que ça permet aussi de s'aligner sur les autres pays européens qui pratiquent plutôt un délai de 12 semaines. On va également faciliter l'accès de l'IVG aux mineurs, et donc on va permettre les IVG sans l'autorisation parentale, alors qu'avant c'était indispensable. Donc là, on voit que l'IVG, déjà, dans cette loi, c'est moins un droit exceptionnel. On le facilite. Et d'ailleurs, quand on lit les discours par rapport à cette loi, on mentionne moins l'IVG comme un caractère, comme quelque chose d'exceptionnel. Donc le législateur commence à évoluer. Et petit à petit, on va consacrer vraiment l'IVG comme un droit à part entière. Et on a notamment une loi du 4 août 2014 qui va procéder à un changement qui est dotée d'une forte portée au niveau symbolique, à défaut d'une forte portée au niveau juridique. En fait, cette loi du 4 août 2014, elle vient supprimer la condition de détresse pour pouvoir pratiquer une IVG. On a vu normalement à l'origine, une femme, pour pouvoir pratiquer un IVG, elle devait être dans un état de détresse. Au niveau juridique, en fait, cet état de détresse, cette condition, elle ne servait à rien, puisqu'en fait, c'est la femme elle-même qui pouvait apprécier son état de détresse. Donc juridiquement, cette condition n'en était pas vraiment une. Mais symboliquement, par contre, c'est important et ça a été vraiment revendiqué par le gouvernement, par les législateurs. On s'est dit, il est nécessaire d'affirmer le droit des femmes à disposer de leur corps, celles-ci devant être les seuls juges de leur état et des motifs pour lesquels elles ont recours à un IVG. Donc là, on considère vraiment que l'IVG, c'est plus quelque chose d'exceptionnel, mais c'est vraiment un droit à part entière de la femme de disposer de son corps. Donc on est déjà sur une consécration d'un droit à part entière. Et ça, ça progresse encore par une résolution de l'Assemblée nationale. Une résolution, en fait, c'est quand l'Assemblée nationale, elle veut donner un avis sur une question. Au niveau juridique, ça ne vaut pas grand-chose. Par contre, c'est une forte valeur symbolique. Et ils ont adopté une résolution le 26 novembre 2014 pour réaffirmer le droit fondamental à l'IVG. Donc là, un droit fondamental, c'est un droit qui est vraiment un peu au-dessus de tout, qui est très protégé. D'accord ? Donc là, on voit qu'on a eu un basculement, finalement. L'IVG, c'est plus un ultime et exceptionnel recours, mais c'est vraiment un droit à part entière pour la femme de disposer de son corps. Et on va voir que toutes les règles, elles s'inscrivent dans ce courant-là. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Donc, c'est l'article L2212-1 du Code de la Santé publique qui pose les règles. L'IVG est possible pour la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre sa grossesse et jusqu'à la deuxième semaine de la deuxième semaine de grossesse. Passé ce délai, une interruption de grossesse est toujours possible. Dans ce cas, on est dans le cadre de l'interruption médicale de grossesse. Elle est possible sous condition. Il faut que deux médecins attestent que la grossesse met en péril grave la santé de la mère. Donc là déjà, au niveau des critères, ça ne va pas. Il faut un péril grave pour la santé de la mère. Donc là, qu'est-ce que c'est qu'un péril grave ? C'est un peu comme ce matin, où est-ce qu'on met la barre sur ce qui est grave dans le domaine médical ou pas ? Pareil, on me dit pour la santé de la mère. On ne précise pas du tout si c'est la santé physique, la santé psychique. Donc en fait, c'est une notion qui est sujette à interprétation. En fonction de mon interprétation, je peux facilement, du coup, élargir les femmes concernées par ce type d'interruption. D'accord ? Alors, soit c'est la grossesse met en péril grave la santé de la mère, soit il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une infection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Là, c'est pareil, il y a plusieurs remarques. Déjà, il faut une forte probabilité. Or, une probabilité, c'est pas une certitude. Peut-être que l'enfant ira très bien. La probabilité, c'est suffisant. Que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité, donc ça, c'est pareil. À partir de quand on considère que l'affection est d'une particulière gravité, c'est à débattre. Reconnue comme incurable. Et là, on peut se demander, qu'est-ce qui se passe quand on a une affection qui est certes incurable, mais qui n'en est pas moins peut-être réparable, surmontable. Un enfant trisomique, par exemple, est-ce que c'est grave ou pas. C'est incurable, d'accord, mais est-ce que c'est insurmontable? L'acte doit être pratiqué par un médecin ou une sage-femme. Et les sages-femmes peuvent pratiquer uniquement les IVG, du coup, médicamenteuses. Donc on voit qu'on a pas mal de règles pour faciliter l'accès à l'IVG. Au niveau des étapes, donc on a une première consultation dans laquelle la femme va recevoir une information par rapport à ça. On lui propose également une consultation psychosociale qui n'est plus obligatoire, sauf pour les mineurs. Et ensuite, une deuxième consultation dans laquelle on va donner un consentement écrit. Et donc là, c'est pareil, on a une modification qui est assez importante sur le plan symbolique. Le délai de réflexion de 7 jours qui avait été instauré par la loi Veil entre la première et la deuxième consultation a disparu par la loi du 26 janvier 2016. Une revendication, ça c'était du planning familial pour pouvoir permettre aux femmes d'accéder à l'avortement plus facilement. Aussi, on considérait que ce délai, ben, en fait, ça faisait comme si les femmes ne savaient pas ce qu'elles voulaient. Et voilà. C'est certains discours féministes qui demandaient la suppression de ce délai. Il y a une troisième consultation ensuite, suite à l'acte, une consultation de contrôle et également du coup d'information sur les modes normaux de contraception. On va dire ça comme ça. On s'est demandé s'il y avait une clause de conscience aussi, pour pouvoir permettre aux personnels médicaux de refuser de réaliser ces actes. Alors oui, on va avoir une clause de conscience qui est possible, c'est l'article L2212-8. Aucun personnel médical, en fait, n'est obligé de participer à la mise en œuvre de ces actes. Par contre, votre obligation en tant que médecin, c'est d'informer la patiente le plus tôt possible de votre refus de le faire. Si jamais vous attendez, en fait, la deuxième consultation pour l'informer, vous êtes obligé de lui remettre un certificat qui prouve qu'elle a bien fait les différentes consultations. Et là, on voit un peu encore l'illustration de la volonté de permettre l'IVG beaucoup plus facilement, puisque la femme n'a pas besoin de refaire toutes les consultations. Ça, c'est une obligation pour vous. Vous ne pouvez pas refuser de le faire. D'accord ? Sinon, vous êtes sanctionné. Pareil, au niveau des alors, établissements privés de santé, eux, ils peuvent éventuellement s'opposer à ce qu'il y ait des IVG dans leur service s'il y a des établissements publics locaux qui peuvent le faire. Par contre, dans un service public, là, un médecin ne pourrait pas refuser de le faire dans son service. D'accord ? Il faut bien tout de suite informer la patiente. On a cherché, et ça se voit aussi, à faciliter l'IVG pour les mineurs. En principe, il faut le consentement parental. Mais, finalement, si la mineure souhaite conserver le secret sur son état de santé, ou alors que les parents refusent l'acte, on ne peut pas. C'est elle qui décide. On va pas pouvoir lui imposer cet acte, mais on peut pas lui dire non plus non, on le fait pas. D'accord ? Sa seule volonté suffit pour pratiquer l'IVG. Il n'y a pas d'autres règles supplémentaires pour elle, sauf la consultation psychosociale obligatoire. Donc on voit que progressivement, on a eu un glissement de l'IVG qui était vraiment à l'origine sanctionnée, interdite. Ensuite, on passe de l'IVG à un droit exceptionnel, et là on a basculé sur l'IVG, vraiment un droit à part entière. Et c'est intéressant, c'est qu'il y a un symbole de l'évolution de ce droit, c'est par rapport aux sanctions qui encadrent l'IVG. Et c'est assez intéressant de les étudier. En 1920, je vous ai dit ce matin, on cherche à augmenter la natalité. Du coup, on vient sanctionner la provocation à l'avortement. Donc on a interdit les contraceptifs, mais on a interdit également l'avortement, et même le fait de faire de la publicité, d'inciter à l'avortement, c'est interdit. Sous le régime de Vichy, ça devient même criminel, ça. Donc, c'est-à-dire que vous risquez la peine capitale, à l'époque. En 2001, la loi du 4 juillet 2001, on vient sanctionner deux choses. L'interruption illégale de grossesse, et celui-là qui a fait beaucoup parler de lui récemment, l'entrave à l'IVG. Alors, concernant l'interruption illégale de grossesse, qu'est-ce que c'est? Ça va être le fait de pratiquer l'IVG sans le consentement de la femme, le fait de pratiquer l'IVG sans respecter les conditions légales de l'intervention de l'IVG. C'est-à-dire que pour qu'il y ait l'IVG, on a vu, il y a certains délais, il faut être un médecin ou une sage-femme, il y a certains lieux aussi où on a le droit de le pratiquer. Si on ne respecte pas ces différentes conditions, c'est un délit d'interruption illégale de grossesse. Troisième possibilité, c'est également le fait de fournir à la femme les moyens de pratiquer l'IVG elle-même sur sa personne. C'est interdit. Alors là, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que la femme n'est jamais sanctionnée. C'est uniquement la personne qui va l'aider, d'accord ? C'est vous en tant que professionnel de santé qui pourrez être sanctionné dans ces cadres-là, mais la femme, elle, n'est jamais complice, elle n'est pas sanctionnable. Et on voit du coup que le fait d'exercer finalement des pressions sur la femme pour la pousser à procéder à l'IVG, la provocation à l'avortement, ça n'est plus sanctionné. D'accord ? C'est le fait de la faire avorter sans son consentement, mais le fait de la pousser à le faire, ça n'est plus pris en compte par la loi. Alors, on a ensuite un autre délit qui a fait l'objet de beaucoup de modifications récemment. Et en fait, ce délit d'entrave à l'IVG, il est vraiment significateur de la volonté du législateur de consacrer l'IVG comme un droit à part entière pour les femmes. Et donc, on va tout faire pour que ce droit ne soit pas remis en question. Alors, c'est un droit qui... Enfin, c'est un délit qui n'est pas nouveau. D'accord ? Il a été créé par la loi du 27 janvier 1993. À l'origine, ce délit, il avait pour but de lutter contre un comportement bien précis, c'était de lutter contre les commandos anti-IVG. On les a surnommés comme ça. Alors, qu'est-ce qui se faisait, en fait, ces commandos anti-IVG ? C'était des associations qui étaient contre l'IVG, qui venaient, par exemple, s'enchaîner devant les centres d'IVG pour empêcher les femmes d'entrer dans les centres, ou alors ils s'installaient dans les services de gynéco qui pratiquaient les actes avec des banderoles, des photos de fœtus ensanglantés, enfin des choses très sympathiques comme ça, pour dire que c'était pas bien de faire des IVG, ou alors ils venaient aussi s'enchaîner dans les blocs opératoires pour empêcher les médecins d'aller pratiquer leurs actes. Donc ça, le législateur se dit c'est pas possible, on peut pas les laisser faire. Donc on va créer le délit de l'entrave à l'IVG avec un article L162-15. Et on nous dit, donc sera puni, c'était de 2 ans de prison, le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher l'IVG, soit en perturbant l'accès aux établissements ou la libre circulation dans les établissements, soit en exerçant des menaces, intimidations sur le personnel ou les femmes qui veulent pratiquer l'IVG. D'accord ? Ce délit, il a été très bien pour pouvoir sanctionner ces comportements. Et on a plein d'exemples d'arrêts, je ne vais pas tout développer là, où on a vraiment pu lutter de manière efficace contre ces comportements commandos. Le problème, c'est que ces commandos, avec l'avènement d'Internet, ils ont progressivement évolué. Et en fait, on a fini par se rendre compte qu'il n'était pas possible de lutter contre la désinformation. Le fait de mal renseigner les femmes sur l'IVG. Et on a notamment vu surgir, en fait, au fil des années, des sites internet qui avaient tendance à se présenter de manière neutre, de manière objective, mais qui délivraient des informations contre l'IVG et parfois même des informations scientifiquement douteuses. Il y en a qui étaient tout à fait fiables, il y en a des fois c'était un peu limite au niveau scientifique. Ces sites n'annoncent jamais qu'ils sont contre l'IVG, d'accord ? Mais ils présentent une information qui est orientée. Et c'est en fait vraiment ça que le gouvernement n'a pas apprécié. On a même des sites avec des numéros verts, vous pouvez appeler ces numéros si vous êtes une femme enceinte, et ils vont normalement de manière neutre vous conseiller, sauf qu'il y a eu des enquêtes et on sait que les conseils ne sont pas du tout neutres, et que certaines femmes se sont fait harceler par la suite par ces fameux conseillers pour leur dire de ne pas pratiquer des IVG. On était vraiment dans du harcèlement et des choses comme ça. Donc ça, le gouvernement veut lutter contre ce genre de pratiques. Du coup, là, ça ne suffit pas. Donc, on vient adopter une nouvelle loi, la loi du 20 mars 2017, et un nouvel article, L2223-2. Et vous allez voir qu'en fait, dans sa volonté d'être en réaction à ce comportement, le législateur il vient totalement perdre son objectivité et du coup sa loi est extrêmement critiquable et on va voir que finalement ça ne parvient, enfin ça ne va même pas remplir l'objectif prévu. Alors au départ ça commence bien comme précédemment et punit toujours de 2 ans de prison le fait d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur l'IVG. Donc là c'est comme avant, on vient juste préciser qu'en plus on sanctionne le fait de s'informer sur l'IVG. D'accord ? Là ça va, c'est clair. Non. Moi ça me va.
Non, de s'informer sur
l'IVG. De s'informer. Attendez, c'est pas fini. L'article n'est pas terminé, oh non. Là pour l'instant c'est plutôt clair, ça va. Ça se complique ensuite. On nous dit, donc le fait de s'informer, d'empêcher, de pratiquer ou de s'informer, par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion, la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques, les conséquences de l'IVG. Alors là déjà, c'est du grand n'importe quoi au niveau juridique. Pourquoi ? Là, il commence par nous dire, et puni le fait d'empêcher de s'informer ou de pratiquer l'IVG par tout moyen. Cette formulation, normalement, quand un juriste utilise la formulation « par tout moyen », c'est qu'on veut utiliser une formulation large. « Par tout moyen », c'est par n'importe quel moyen. Donc, il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche derrière en disant « de manière électronique », comme si, comme ça. Ça alourdit la formulation, on n'y comprend rien. Donc déjà, là, le législateur, il va absolument dire les sites internet en ligne, c'était pas nécessaire, d'accord ? Le tout moyen, ça suffisait. Mais bon, voilà. Donc ensuite, la diffusion de nature à induire intentionnellement en erreur. Donc ça veut dire que si vous induisez en erreur, mais pas intentionnellement, vous n'êtes pas sanctionné. Ça s'interprète. Et surtout, et alors là, au niveau juridique, c'est inadmissible, dans un but dissuasif. Et donc là, on voit que le législateur, il a une perte totale d'objectivité. Pourquoi ? Parce que les mêmes informations de nature à induire intentionnellement en erreur, cette fois dans un but incitatif, ça ne sera pas sanctionné. En droit pénal, on a un principe de stricte interprétation de la loi pénale. Donc j'interprète la loi, j'ai pas le droit d'interpréter, c'est vraiment en fonction du texte. Là, le texte, il me dit but dissuasif. On me fait un site internet avec uniquement des informations dans un but incitatif. J'ai le droit, je peux rien faire. D'accord ? Donc là, c'est déjà, ça va pas. Mais c'est pas fini, l'article n'est pas fini. Et il nous dit encore, soit en perturbant l'accès aux établissements, la libre circulation, on rajoute les conditions de travail, donc ça on l'avait déjà dans l'ancien article, soit en exerçant des pressions morales, psychologiques, ça c'est nouveau, à l'encontre des personnes cherchant à s'informer, on l'a déjà mis là-haut, c'est pas forcément nécessaire de le remettre en bas, mais bon. Alors, cherchant à s'informer sur l'IVG, sur les femmes ou sur l'entourage de ces dernières. Donc là, tout ça, c'est l'article. Et encore, je vous ai fait des petites coupes. Il est pas clair, c'est illisible, il est extrêmement mal rédigé. Donc en fait, quand on voit ça, on se dit déjà qu'il y a une rupture par rapport à l'ancien délit. L'ancien délit, qu'est-ce qu'il faisait ? À chaque fois, il était orienté, soit il visait des actions qui étaient orientées contre une personne précise ou un lieu précis. D'accord ? On visait les actions qui visaient à entraver l'accès à l'IVG, donc soit devant les établissements, soit pour les femmes qui voulaient aller dans les établissements. Tandis que là, visiblement, on cherche à sanctionner la diffusion d'informations sur Internet. Ça vise pas une personne déterminée, Internet. Ça vise pas un lieu précis. On pourrait se dire, les femmes, elles ont la liberté d'aller sur plusieurs sites Internet. Donc si finalement ce site-là, il est trop orienté, elles pourraient aller ailleurs. Donc on a quand même une rupture par rapport à l'ancien délit. C'est quand même pas non plus la même chose que de mettre sur un même plan les personnes qui diffusent des informations sur Internet et les autres zozos qui venaient s'enchaîner là dans les blocs opératoires. C'est quand même pas le même niveau d'implication. Et là, le danger avec cet article, c'est qu'il est quand même susceptible d'interprétation. Il pourrait avoir une portée extrêmement large, en fait. C'est pas très clair. On ne sait pas trop comment articuler tout ça. Et on peut se demander, est-ce que finalement on n'a pas une très grande atteinte à la liberté d'expression? Et là, moi, légitimement, quand je lis l'article, je peux me dire, est-ce que finalement le simple fait de diffuser des informations sur Internet contre l'IVG, est-ce que c'est répréhensible par cet article ou pas? Donc il y a des personnes qui se sont posées la question et du coup, ils ont saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est lui qui va contrôler si les lois, elles sont conformes à la Constitution. Et la Constitution, elle vient notamment protéger la liberté d'expression. Et on n'a pas le droit de faire de loi qui serait contraire à ça. Et donc le Conseil, il a examiné l'article et il a dit, cet article, donc il a rendu sa décision, c'était récent, le 16 mars 2017, il est bien conforme à la liberté d'expression, mais il a posé des réserves d'interprétation. C'est-à-dire, il est bien conforme à la liberté d'expression, à condition de l'interpréter de la manière dont je vais vous l'expliquer. D'accord ? Donc en fait, il est venu, lui, il a repéré qu'il y avait des problèmes, et il est venu réduire, en fait, la portée de cet article. Et donc, il a dit, pour qu'il y ait entrave, il faut qu'on empêche la personne de pratiquer ou de s'informer sur l'IVG, soit en perturbant l'accès, les conditions de travail, la libre circulation dans l'établissement, soit en effectuant des pressions, des menaces sur la personne, etc. Alors en fait, si je remonte, voilà, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que ce petit bloc-là, il s'interprète avec ça, ça va ensemble, d'accord? Il peut y avoir l'entrave que s'il y a ça, le fait d'empêcher ou de pratiquer, de cette manière-là. Et il nous dit, du coup, en fait, ça, c'est juste un moyen de faire ça. Donc, si on veut qu'il y ait entrave, il faut qu'on empêche de pratiquer ou de s'informer en perturbant l'accès ou en exerçant des pressions morales et psychologiques. Donc, déjà, on analyse ça, on se dit, finalement, le fait de diffuser des informations sur Internet, est-ce que ça peut aller là, perturber l'accès à un établissement? A priori, non. Par contre, on peut se demander, est-ce que ça pourrait pas être constitutif de pression morale ou psychologique, le fait de diffuser des fausses des informations qui seraient contraires à l'IVG sur Internet? Peut-être. Mais du coup, le Conseil constitutionnel, il a aussi vu ça, et il nous dit que la seule diffusion d'éléments de nature à dissuader de recourir à l'IVG n'est pas réprimée en soi, et ne constitue donc pas un cas autonome d'entrave. Donc le simple fait de diffuser sur Internet à des personnes déterminées, ça n'est pas un cas en fait autonome d'entrave, et il nous dit bien que ça n'est pas non plus constitutif de pression, d'accord? Donc pour que ça soit considéré comme des pressions, il faut vraiment que ça vise une femme particulière, déterminée. Donc ça pourrait être le cas par exemple si la femme appelle le numéro vert, et que suite à ce numéro, et ça c'est déjà arrivé malheureusement, il y a des femmes qui se font harceler ensuite par les conseillers, qui sont censés les informer sur l'IVG de manière neutre et objective. Et elles se font harceler et on leur fait des pressions pour qu'elles ne fassent pas des IVG. Dans ce cas-là, on serait sur de l'entrave, d'accord? Mais sinon, le simple fait de mettre sur son site des choses contraires à l'IVG, ça n'est pas un cas d'entrave. C'est pareil, le délit d'entrave, donc on nous dit que ça concerne le fait d'empêcher de pratiquer ou de s'informer. Et on va nous dire aussi comment il faut interpréter la conception d'une personne qui cherche à s'informer. Une personne qui cherche à s'informer, c'est une personne qui sollicite une information et pas une opinion sur les conditions ou les conséquences de l'IVG et auprès d'une personne détenant ou prétendant détenir une légitimité en la matière. C'est-à-dire que moi, je vais voir mon ami pour lui demander son opinion sur est-ce que je dois faire l'IVG ou pas. Je ne suis pas, aux yeux de la loi, une personne cherchant à m'informer. Je cherche une opinion, je ne cherche pas une information. Ce n'est pas une personne qui est légitime, donc ça veut dire légitimité professionnelle, d'accord? Donc en fait, finalement, le Conseil constitutionnel, il a vraiment eu conscience de ces dangers qui pouvaient être portés à la liberté d'expression, et il est venu réduire l'article, la portée de l'article, pour qu'on n'ait pas d'atteinte démesurée à la liberté d'expression. Donc finalement, en fait, la portée de cet article, elle est très réduite parce qu'on se retrouve, en fait, comme dans le cas antérieur, pour qu'il y ait entrave, il faut qu'on empêche de pratiquer un IVG ou alors qu'on vise les personnes qui cherchent à s'informer, mais en perturbant l'accès aux établissements ou en exerçant des pressions contre une personne déterminée. Ça peut se faire via numérique, mais là on voit qu'avec toutes les réserves d'interprétation, en fait finalement, l'article ne change rien du tout à ce qui se passait avant. Il est intéressant du coup cet article parce qu'il montre vraiment que le législateur il a réagi il a adopté une loi en réaction à un comportement. Il a tellement eu envie de sanctionner ce comportement qu'il en a perdu toute sa clarté. Il manque totalement d'objectivité. Et puis au final, ça ne sert à rien parce que les sites sont toujours actifs. L'objectif n'est pas atteint. Donc voilà. Cet article, c'est quand même un symbole en fait du basculement du droit à l'IVG comme droit exceptionnel à l'IVG qui est vraiment maintenant consacré comme un droit à part entière et il faut surtout que ni personne ni rien ne puisse l'entraver. Voilà. Je vous remercie.